cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour Frédéric Charbot.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, tous les deux, vous êtes les pilotes, on pourrait dire, de Jazz à Saint-Germain, festival qui entamait sa deuxième décennie, puisqu'il a été créé en 2001. Et alors là, en plus, on vous prend même pas avant le démarrage, ni à la fin, mais en plein milieu. Vous êtes dans quel état, là ?
Tout va bien pour moi, en ce qui me concerne. On dort peu, mais c'est tellement
normal.
Excitant. Normal, mais c'est excitant, donc on est... Ouais, non, tout va bien.
Tout va bien, aussi.
Donc une édition qui se poursuit jusqu'au 3 juin avec une belle extension fin juin le 27 avec un concert d'Ahmad Jamal avec un guest, on pourrait dire, assez prestigieux, Youssef Latif. Cette année, je crois que vous avez voulu mettre un petit peu l'accent sur le piano.
Oui, c'est à la fois un choix et à la fois un hasard de disponibilité des musiciens. Et puis voilà, c'est arrivé comme ça. Donc beaucoup de pianistes. On a ouvert avec un pianiste qui s'appelle Michel Legrand. Et on va clôturer avec, comme vous le disiez, un autre pianiste qui s'appelle Ahmad Jamal, avec entre les deux pas mal d'autres, Jackie Terrasson, Laurent De Wilde, etc., Boyan Z, et plein d'autres.
Yaron Herman,
etc., etc. Voilà.
Alors comme d'habitude, c'est toujours, vous essayez de mélanger aussi bien, j'allais dire, les stars, ceux en devenir. Il y a aussi un tremplin, il y a beaucoup de choses. Ce festival a pas mal évolué depuis sa naissance. Ce tremplin, c'est vrai que c'est aussi quelque chose d'important, enfin un temps assez fort dans ce festival.
Oui, on a pas mal de... Enfin, dans la programmation, une des choses essentielles, d'abord, c'est de ne pas proposer ce qu'on a vu 15 jours avant ou qu'on va voir 3 semaines après dans un club à Paris ou à proximité de Paris. On essaie de faire des choses qui soient un peu différentes de ce qui s'est déjà vu ou de ce qui va se voir, d'où les créations, d'où les rencontres. Et effectivement, le tremplin Jeune Talent. Le tremplin Jeune Talent, ça fait 11 ans qu'il existe, je crois, 10 ou 11 ans qu'il existe. Et c'est quelque chose qu'on défend, évidemment, puisque ce sont des gens qui ont entre 20 et 25 ans, qui n'ont pas d'album commercialisé, qui sont tous professionnels, qui composent, tous les musiciens en tout cas sélectionnés pour le tremplin, on s'est rempli ces critères-là, et ça donne des choses formidables, avec un jury qui décerne des prix, avec des gens comme Anne Passeo et d'autres qui sont sortis de là, et c'est quelque chose auquel on tient beaucoup. Il y a les premières parties, il y a beaucoup effectivement de place laissée aux jeunes talents et aux jeunes musiciens.
Et le festival grandissant est sorti des frontières, on pourrait dire, de Saint-Germain, puisque maintenant il y a des concerts qui se déroulent un petit peu partout. C'est, j'imagine, une forme de succès aussi.
C'est d'ailleurs ce qui a fait que le nom a changé cette année, c'est Jazz à Saint-Germain-des-Prés Paris. Ça fait quelques années déjà que nous sommes dans des lieux remarquables, puisque c'est l'objet du festival aussi, de faire se rencontrer des plateaux originaux ou jamais vus, comme Frédéric vous l'a dit, dans des lieux pas forcément dédiés à la musique. Donc on a le Théâtre de l'Odéon, l'église Saint-Germain-des-Prés, par exemple, dans le 6e arrondissement, mais également l'Institut Océanographique, Maison des Océans, dans lequel on fait jouer des artistes qui traversent les mers et les océans pour venir nous voir. Donc ça, c'est dans le 5e. On sera dans le 15e à l'UCS Mix Live. C'est vendredi soir.
Demain soir
pour une soirée hip-hop et jazz, mais ça Frédéric vous en parlera peut-être encore. Nous allons dans le 5e au Centre Culturel Irlandais, une cour merveilleuse, vous poussez un Porsche et vous êtes à la campagne. Le Sunset, vous l'avez dit, pour le tremplin Jeune Talent. Donc on a plein de projets, plein d'idées encore pour les années à venir, et effectivement faire que ce festival soit ancré et enraciné à Saint-Germain-des-Prés, là où il est né, et là où le jazz est arrivé en Europe après-guerre, et il va faire ses fleurs et ses feuilles dans tout Paris. Et nous avons aussi cet après-midi, dans un lieu pour le moins étonnant, puisqu'il s'agit de Les Regards de Orly West, un concert, et on en aura un jeudi prochain aussi.
Comment on monte une édition avec d'un côté une politique éditoriale qu'on a envie d'affirmer, l'autre côté les problématiques, comme vous l'avez souligné au début, des disponibilités, des plannings de chacun. On sait que pour certains jazzmen, souvent ceux connus, ils ont des plannings quasiment prévus déjà un an ou deux ans à l'avance. Donc j'imagine qu'on doit un petit peu jongler avec tout ça.
Oui, d'autant plus qu'on est un peu en dehors de la période estivale des festivals qui démarrent plutôt fin juin. Et c'est vrai qu'on a des concerts qui sont souvent des one-shot, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le cadre d'une tournée d'un musicien américain ou autre, d'ailleurs, qui va jouer la veille à Strasbourg, le lendemain à Vienne, le surlendemain à Juan, etc. Nous, on est vraiment dans un cadre un peu isolé. Ça complique les choses. Ça les facilite, mais ça les complique. Alors, ça les complique évidemment financièrement, parce que quand il faut faire venir quelqu'un de New York, il faut payer des voyages, etc. Mais voilà, c'est ce qui fait notre particularité aussi. Et puis, d'avoir des gens un mois avant tout le monde, c'est pas si mal, finalement. Alors, on a eu par exemple, enfin, je prends l'exemple de Monty Alexander, qui est un mauvais exemple, puisqu'il a malheureusement été opéré. Voilà, il a été opéré jeudi dernier. Mais ça, c'était vraiment un exemple de personne qui venait en France pour deux ou trois concerts maximum avant de faire cette tournée d'été qui va l'emmener sur tous les plus grands festivals. Donc on avait une espèce d'avant-première avec l'exclusivité. Bon, malheureusement, il ne l'a pas fait, mais on le fera l'année prochaine, ça c'est sûr, il nous l'a promis.
Et pour répondre à votre question de comment fait-on, on travaille un an et demi à l'avance. Et puis au fil du temps, les réseaux se sont tissés avec les managers, avec les artistes, qui connaissent le festival, qui savent ce que Frédéric attend artistiquement, donc de l'originalité, du one-shot. On est à Paris, c'est la ville où il y a de multiples concerts de jazz tous les soirs. Qu'est-ce qui fait qu'on va avoir envie d'aller au festival, plus que dans tous les autres magnifiques endroits où on peut aussi écouter du jazz? Donc c'est ça notre défi.
vous regardez l'album photo de toutes les éditions passées, comment vous voyez l'évolution rétrospectivement entre la feuille de route de départ de la première édition et aujourd'hui où vous en êtes
Il y a des fiertés. Il y a des fiertés d'avoir fait jouer des musiciens qui étaient presque inconnus et qui sont devenus par des stars, parce que dans le jazz, le mot star, c'est pas vraiment le mot approprié.
Des noms.
Mais Norah Jones, qui a fait son premier concert à la maison, chez nous, en 2002. Voilà, ça, ce sont des paris, parce que comme le disait Donatienne, lorsque le musicien est sur scène, il faut savoir que les négociations et les pourparlers avec son management ou avec sa maison de disques ont lieu 6, 7, 8 mois avant. Donc lorsque Norah Jones est apparue avec son disque promo, personne ne la connaissait. On est allé la voir dans un showcase où il y avait 30 personnes à Paris. Et puis on a travaillé là-dessus avec la maison de disques pour pouvoir la faire venir. Et c'était effectivement, après ça a été une déferlante, comme on le sait, il y a eu 30 millions d'albums vendus. Enfin, on va pas. Il y a eu Yaron Herman, qui était un de ses tout premiers concerts, a été au festival. Thérèse Moncalme, qui a fait ça aussi, pareil, des premiers concerts au festival.
Ben l'Oncle Soul,
qui mon premier grand concert parisien était chez nous, etc., etc. Donc c'est pas mal. Voilà, ça, c'est une petite fierté quand même de se dire, tiens, on s'est pas trompé sur ces découvertes. Raphaël Gualazzi aussi, le pianiste italien, qui a fait deux concerts l'année dernière, qui était archi comble.
J'ai envie de rajouter des noms issus du tremplin, parce que, par exemple, je pense à Sylvain Moser, qui est également Esmos et qui joue donc demain soir. Lui, c'est devenu un grand personnage de la musique, du jazz et du hip-hop. Je pense à Anne Passeo aussi, qui est lauréate du tremplin, qui est une batteuse remarquable.
Et puis cette année, on a un pianiste israélien qui s'appelle Shai Maestro, voilà, qui va, j'en suis sûr, devenir... c'est un grand pianiste, ça c'est sûr, mais ça va devenir quelqu'un, je pense, de très connu. Alors, il l'est déjà un petit peu, il a déjà fait des concerts, il a été le pianiste d'Avishai Cohen, et puis là, sous son nom à lui, avec son trio, il a déjà fait quand même 2-3 concerts qui ont vraiment bien marché, et là, on le met vraiment en avant, avec deux soirs de suite, on le met en avant, avec la sortie de l'album, puisque l'album sort ces jours-ci. C'est une merveille.
Oui, on l'a bien soutenu chez Cobos.
J'ai envie de rajouter un truc par rapport à votre question sur la photo, etc. Quand on se retourne en arrière, il y a à la fois la photographie artistique dont Frédéric vient de vous parler, et il y a la photographie évidemment de l'organisation, parce que quand vous faites un premier festival, c'est 3 jours, on est 4 à tout faire. Aujourd'hui, c'est 15 jours, c'est 45 événements, c'est 15 ou 16 lieux différents, et on est jusqu'à, incluant les bénévoles, 80 ou 100 personnes parfois. Donc ça, c'est énorme. Il y a quelque chose qui n'a pas changé et qui est fondamental, sur lequel le festival s'est construit, c'est l'esprit. C'est pas un hasard que ce soit organisé par l'Esprit Jazz, c'est le nom de l'association qui produit Jazz à Saint-Germain-des-Prés, Paris. Et cet état d'esprit, on le transmet aux artistes, aux bénévoles et à toute l'équipe. Et c'est de la convivialité, du partage, de l'échange, de l'audace et de la créativité. Ce sont des valeurs qui, pour nous, sont complètement véhiculées par le jazz, j'ai envie de dire les jazz, parce qu'il y a plein de jazz qui viennent chez nous. Ça n'a pas changé. C'est le plus difficile à préserver, mais...
Et puis il y a une fierté, une autre fierté aussi de... On a, en 12 ans, je ne sais pas, il y a 1000 musiciens qui sont passés au festival. Et il n'y en a pas un seul. Je réfléchissais, j'essayais d'en trouver un. Il n'y en a pas un seul qui s'est plaint de l'accueil, des conditions, du concert, etc. À chaque fois, ou le soir même, ou le lendemain, ou 2 jours après, les musiciens nous écrivent ou nous font un petit mot en nous disant merci pour tout, etc., etc. Ça fait du
bien.
Parce
qu'on met beaucoup d'humanité dans les équipes de A à Z. L'idée, c'est qu'un musicien, s'il est accueilli avec le sourire de sa descente d'avion jusqu'à sa loge et à son hôtel, qu'il mange dans un restaurant sympa, que toute l'équipe technique est bien autour de lui, eh bien, sur scène, ça va s'entendre. Et il aura envie de faire des choses.
Est-ce qu'il y a de ce succès, d'avoir grandi de la sorte, de la manière dont vous l'avez décrit, est-ce qu'il n'y a pas aussi un danger? C'est-à-dire que vous étendez en termes de lieu, c'est vrai qu'en termes de style, le jazz évolue, donc évidemment ça peut inclure une forme de hip-hop. Est-ce qu'il y a des moments où vous voulez quand même conserver une sorte des règles, des limites, des frontières, des choses, ou
Musicalement, non. Mmh. Non, musicalement, moi, j'ai pas de... Enfin, je me donne pas de...
Quelques frontières par rapport à la musique folklorique, par exemple.
Non, mais bien sûr. Non, mais il faut que ça reste... Mmh. Ben, comme disait Donatienne, il faut que ça reste dans l'esprit jazz.
Parce qu'on sait qu'il y a évidemment plein de... Montreux a peut-être été le premier dans, à ce niveau-là à garder, à avoir de, le mot jazz, et effectivement, inclure des styles un peu à 360 degrés.
Ah oui, 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 d'accord. C'était moi, je pense... Ça m'étonnerait qu'on aille jusqu'à programmer la CDC au festival, quoi. Mais... C'est l'esprit qui compte, voilà, c'est vraiment... Quand on parle de Esmos et quand on parle du bal swing, on est vraiment à deux extrêmes. Le bal swing, c'est la musique des années 40-50, c'est le swing. Esmos, c'est le mélange, la rencontre du hip-hop et du jazz. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Esmos et Sylvain Moser, c'est au départ un pianiste de jazz. Il a un groupe, un sextet très hard bop. C'est, d'abord, il connaît très très bien la musique, et quand il va mélanger le hip-hop et le jazz, il reste l'esprit, entre parenthèses, jazz, forcément. Donc on y a, voilà, on fait attention sans faire attention, mais pour moi c'est naturel.
On a plutôt envie de... On parle beaucoup de musique, mais le Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés, Paris, ce qui fait aussi sa particularité, c'est que le jazz, c'est de la colonne vertébrale de ce festival. Donc il y a des scènes avec de la musique vivante, il y a des rencontres, il y a des expos photos, il y a des projections, et quand vous parliez de s'étendre, on a des projets de réflexion actuellement sur de la danse, sur de la littérature, journalisme, plutôt un volet, on va dire, de réflexion autour de l'histoire du jazz, notamment en Amérique du Nord, le jazz, musique sociale pour les Noirs américains. Donc voilà, on ira sur ces territoires-là qui sont des domaines d'expression et des modes d'expression artistique. Et puis dans la musique, il y aura évidemment un esprit qui sera préservé.
Thank you.
un peu l'aspect artistique, plus sur un aspect organisationnel. Comment vous, le festival a évolué? On sait que depuis plus d'une dizaine d'années, l'industrie du disque a tendance un peu à sa tangue dans tous les sens. Certains disques, d'un autre côté, ce qu'on appelle le spectacle vivant. On disait les concerts, je sais pas maintenant, on dit la musique vivante, comme si la musique était morte. Mais bon, bref. Le live, on va dire, se porte pas trop mal. Comment vous, en tant qu'organisateur, quand vous êtes au niveau de vos calculettes, au niveau de l'organisation, de la faisabilité des choses, est-ce que vous trouvez qu'en 10 ans, c'est beaucoup plus compliqué, c'est pareil, c'est différent?
Danassienne va répondre beaucoup mieux que moi. Non, mais elle a le nez plongé dans les comptes beaucoup plus que moi, même si je suis évidemment... Il y a des détails que j'ignore.
Vis-à-vis du public, alors clairement, par rapport à nos débuts, le public a rejoint le festival. Ça fait 3-4 ans qu'on a plusieurs concerts complets, un très beau taux de remplissage et une belle fréquentation. Cela reste néanmoins des concerts. Je reviens sur dans une ville où il y a une offre énorme. Et donc, il faut... parler du festival, il faut donner envie, surtout quand on est sur des plateaux nouveaux, avec des gens qui n'ont pas forcément une actualité discographique au moment où. Donc il faut faire beaucoup de promos, et notamment travailler avec des sites comme Qobuz, qui sont des nouveaux moyens de toucher les gens qui aiment la musique et qui vont avoir envie de vivre une émotion. Oui, le disque, il s'achète moins. Oui, la musique vivante, c'est quelque chose qui est unique parce qu'il n'y a pas deux concerts identiques. Et quand on est quelque part et qu'on est assis dans une salle, on y est une fois et pas deux. Et il y a des gens qui achètent parce qu'ils sont fans. On parlait de Chai Maestro tout à l'heure. Il y a une spectatrice qui va à tous ses concerts. Elle a pris ses deux places pour le 2 et le 3. Et je pense qu'elle vivra deux concerts différents. Maintenant... Le public évolue, on fait des enquêtes sur nos spectateurs, ceux qui veulent bien répondre aux petits questionnaires qu'on leur demande, c'est quelques questions. On est surpris de voir que parmi les réponses, il y a encore 3 ans, 2 ou 3 ans, 60% des gens qui répondaient venaient pour la première fois au festival. Ça veut dire que gagner du public, c'est tous les ans, à nouveau, on peut avoir des gens nouveaux qui viennent. C'est jamais fini.
Est-ce que vous n'avez pas une difficulté à un peu à surmonter, de savoir que justement la multiplicité des lieux qui s'étalent, etc., pour donner une identité au festival? C'est vrai qu'un festival qui se déroule dans un, deux ou trois lieux, ça permet de créer une sorte d'identité. Est-ce que finalement, plus compliqué à ce niveau-là?
C'est ça, un festival.
Le sixième va quand même rester le cœur, c'est-à-dire l'esprit jazz qui organise le festival. On est toujours dans l'esprit. On reste quand même sur Saint-Germain-des-Prés pour l'essentiel. Quand on est à l'Odéon, quand on est au Théâtre de l'Alliance Française, quand on est à la Sorbonne ou à l'église Saint-Germain-des-Prés, l'église Saint-Sulpice, etc. Ça, c'est le cœur. Après, il y a effectivement un noyau central et puis il y a des électrons qui se baladent autour, quoi. On est, pour parler chimie un peu. Mais c'est vrai qu'après, on a 5-6 arrondissements en plus du 6e. Mais le 6e reste quand même le cœur. Et puis parce que Saint-Germain-des-Prés, c'est un peu... d'abord, c'est un mot magique, un nom magique. Quand on va dans n'importe quelle partie du monde, tout le monde connaît ce nom-là. Et c'est inévitablement associé au jazz. Donc Saint-Germain, jazz, voilà, le 6. On reste quand même au cœur du 6e.
Oui, et puis un festival... Si je vous parle du festival de jazz de Montréal, vous n'avez pas trouvé que c'est trop étalé, qu'il y a trop de lieux? Bon, ils ont peut-être 4 ou 5 fois notre âge, donc quand on a 12 ans, on commence à bien savoir faire du vélo, on a un peu le droit de sortir en boum, on sait pas.
C'est ça.
Quand on aura 45 ans, si on est encore là, quand le festival aura 45 ans, on espère qu'il sera dans tout Paris et qu'il respectera ce qu'on vous a dit tout à l'heure, c'est-à-dire la rencontre entre des musiciens et leur répertoire et un lieu. Un lieu qui a beaucoup de personnalité.
Je vais terminer avec la pire des questions, de choisir parmi quel est votre enfant préféré. Dans les concerts qui restent à venir, un petit coup de cœur personnel chacun, même si j'imagine qu'il y en aurait plusieurs, juste comme ça.
Un seul?
Un seul. Allez, un et demi.
T'es sûr? Allez, un et demi. Donatienne.
Moi, j'ai envie de dire Boyan Z, le pianiste Boyan Z, parce qu'il va être, il va faire un concert en deux parties, et j'aime beaucoup ce montage. La première partie, c'est lui, en solo, et il est totalement éblouissant et très touchant et émouvant en solo. Il a beaucoup de puissance évocatrice
artistique. Son dernier album à ce niveau-là est assez magique.
Exactement. Et ensuite, il sera rejoint par ses musiciens. Donc j'aime bien à la fois se dérouler, et en plus, et je trouve que c'est un artiste qui délivre énormément. Donc ça, j'aime beaucoup. Je peux pas dire Jacques Terrasson, c'est horrible. Je vois d'autres images là et je me dis.
Faut pas regarder le reste du programme.
J'ai envie de dire Jacques Terrasson parce que c'est l'histoire du festival. Il y a un attachement musical à Jacques Terrasson et artistique, puisqu'il relève tous les ans les défis de revenir dans un nouveau projet. Cette année avec Grégoire Marais à l'harmonica, c'est un maître de la mélodie et du rythme, Jacques, donc je pense que ça va être génial.
Frédéric ?
Moi, c'est ce soir déjà, Laurent de Wilde et Stefano Di Battista, parce que d'abord, c'est deux musiciens qui ont déjà joué. Laurent de Wilde, il avait fait un concert à la Sorbonne qui est mémorable, il s'en souvient lui, où il avait invité Abd al-Malik, donc il y avait le trio de Laurent de Wilde avec Abd al-Malik, et ça c'était un concert absolument mais extraordinaire. Et Stefano a fait un concert, lui, l'année dernière au Théâtre de l'Odéon pour présenter son nouveau quintet. Et quand on a eu l'idée, il y a plusieurs années, de faire des pianos solo à Saint-Germain, ou en tout cas piano plus invité, cette année l'idée est venue d'avoir Laurent de Wilde, et quand je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien qu'on fasse un duo à cette église, mais avec qui, comment, quel instrument, j'ai pensé au sax, qu'est-ce que t'en penses ? Il m'a dit bonne idée, et puis le nom de Stefano est arrivé immédiatement sur le tapis, parce que c'est Stefano Di Battista, quoi. Tout simplement, c'est un des plus jolis sons de soprano et d'alto aujourd'hui en Europe, et la rencontre des deux ce soir, moi je dis, ça va être unique, puis c'est une vraie création, ça c'est un vrai... C'est une vraie rencontre, une vraie création. Ça, on ne le retrouvera pas hein. Dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 2 ans. Peut-être qu'ils le feront un jour. Mais en tout cas, ce soir, c'est la première et je ne pense pas qu'il y en ait avant longtemps. Ça, c'est le premier. Et puis moi, j'ai envie de dire vendredi, Esmos avec la soirée hip-hop. Parce qu'Esmos, j'ai une tendresse particulière pour lui. On a bossé ensemble pendant quelques années. Et c'est un type mystérieux qui m'a caché plein de choses. Et aujourd'hui, le voilà en tête des ventes à la Fnac avec son album. Et puis les deux groupes qui vont précéder Esmos, Versus et Art District, c'est un peu. C'est même beaucoup l'avenir de ce type de mélange de musique qui... C'est pas du hip-hop, si c'est du hip-hop, mais il y a des mecs qui jouent quand même sur scène. C'est-à-dire qu'il y a des cuivres, des guitares, des claviers, des basses, des batteries, etc. C'est des vrais musiciens qui jouent vraiment avec un DJ, avec un rappeur, etc. Donc il y a un vrai mélange, c'est pas que des machines qui sont sur scène.
Bien, Donatien Nantin, merci. Frédéric Charbot, merci. Donc je rappelle que le festival de jazz à Saint-Germain-des-Prés, Paris... Après ce qui arrive à Paris Saint-Germain, on a aussi on a l'air d'imaginer.
On a hésité à se faire subventionner par les Qataris.
Par les Qataris, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a une scène de jazz Qataris, c'est à voir, peut-être pour l'année prochaine. Donc le festival jusqu'au 3 juin, avec cette petite extension le 27, avec Ahmed Jamal et Youssef Latif à l'Olympia. Merci.
Merci à vous.
Cobuzz.com Rencontre par Marc Zisman.